RMC, l'After Tour.
Pierre-Yves Leroux.
Le soleil se couche sur la colline de Montjuïc tranquillement, mais le soleil s'est levé dans une équipe, celle de la Visma Lease Bike, avec Jonas Vingegaard, premier grand vainqueur collectif et individuel, puisque c'était un contre-la-montre par équipe, mais il a passé la ligne tout seul aujourd'hui de cette première étape du Tour de France 2026. Il s'impose. C'était peut-être pas celui qu'on attendait en premier, peut-être pas celui qui avait la faveur des pronostics. Certains avaient rêvé d'une couleur plutôt bleu-blanc-rouge avec pourquoi pas Vauquelin. On aura l'occasion d'en parler. Tadej Pogacar aujourd'hui a été battu, mais peut-être est-il le vainqueur masqué. Ça aussi, on en reparlera. On évoquera bien sûr la journée de Paul Sexas et puis celle des autres Français avec tous nos consultants et nos journalistes. Notre journaliste Christophe Cessieux autour de la table. Bonsoir Christophe.
Salut Pierre-Yves, bonsoir à tous.
On a vécu une très belle journée, on va pouvoir en parler avec nos consultants. Jérôme Pinault, bonsoir Jérôme.
Bonsoir Pierre-Yves, bonsoir à tous.
À tes côtés Jérôme Coppel également, qui adore l'exercice du contre-la-montre. Il aura l'occasion de nous dire s'il a aimé celui-là qui était un peu particulier. Salut Jérôme.
Salut Pierre-Yves, salut les copains.
Et avec nous également, vous le savez, sur RMC, pendant tout ce Tour de France, Richard Virin qui est en notre compagnie. Bonjour Richard.
Bonsoir, bonsoir à tous.
On va le retrouver, Richard Virin qui n'est pas très loin, dans quelques instants.
Attendez.
Et ben voilà, on t'entend ben voilà. Richard. Bonjour
bonsoir.
Richard, bienvenue
bonsoir, oui,
dans l'After Tour.
Merci,
Est-ce que tu as vibré pendant cet exercice? On va détailler ça dans quelques instants, mais est-ce que ça t'a plu déjà en deux mots?
Il y avait du suspense, hein. Ces 700 derniers mètres, la montée de Montjuïc pour arriver au stade olympique. Oui, j'ai trouvé ça prenant parce que chaque équipe devait rester assez groupée jusqu'au pied pour mener son leader et pour monter au taquet jusqu'en haut. Et voilà, donc à ce jeu-là, ça a été un beau défilé. Bon, il y a des équipes qui ont eu la malchance, comme sur le Tour, comme toujours. Et forcément, non, c'était un premier lancement. On va dire réussi avec énormément de monde, d'Espagnols qui ont répondu présent. Non, ça m'a bien plu.
Parfait. Eh bien, on se replonge dans l'ambiance de cette première journée sur le Tour de France 2026 avec donc ce premier contre-la-montre par équipe.
Précédemment dans l'intégral Tour sur RMC.
Départ donc de la première équipe et départ de ce Tour de France 2026, Pierre-Yves, c'est imminent.
C'est parti à l'instant pour ce Tour de France 2026. Gaviria en première position, la Cara Rural Seguros dans les rues de Barcelone.
Départ dans quelques instants de notre élu.
C'est parti
pour Paul Sexas.
Il y en a un qui n'a pas laissé d'argent en passant à la Sagrada Familia, c'est Filippo Ganna qui vient d'exploser le meilleur temps. Impressionnant, il a lâché tous ses équipiers, personne n'a réussi à le suivre et il l'emporte avec 21 minutes 55. Paul Sexas dans l'effort à l'arrivée dans quelques instants, il sera en retard évidemment. Mais troisième position derrière Juan Ayuso. Alors, pour Remco Evenepoel. Il sera troisième, 11 secondes et 28 centièmes pour Tadej Pogacar. Troisième. Allez, l'ambiance, Manu Chao, celui qui habitait ici dans le barrio Botico pendant de nombreuses années, l'ambiance espagnole, mais l'ambiance surtout Vingegaard, vainqueur de cette étape. Jonas Vingegaard avec son équipe, parce qu'il ne faut pas oublier que c'était un contre-la-montre.
Dont
un Français.
Bruno Armirail qui gagne l'étape quand même.
Un spécialiste aussi de l'exercice. Il faut dire que cette équipe, elle était effectivement, pourquoi pas, vraiment conçue, bâtie, même si on ne les imaginait pas forcément vainqueurs. On pensait au Ineos, à la Netcompany. Mais c'est bien l'équipe de Jonas Vingegaard qui l'emporte et qui est sur le podium. Aujourd'hui, est-ce que vous avez été impressionné déjà par cette équipe, surpris un petit peu? Je crois pas que c'était dans vos pronostics le vainqueur et l'équipe vainqueur aujourd'hui.
Ouais, moi personnellement, j'étais surpris. J'avais un peu tout mis sur Netcompany Ineos parce que sur le papier, c'est vrai qu'elle faisait forte impression. Alors, on reviendra sur ce qui leur est arrivé après. Mais même avant eux, j'avais mis Red Bull Bora. Je la voyais arriver seulement qu'en troisième ou quatrième position, à peu près comme UAE. C'est vrai qu'il n'y a pas Wout van Aert, par exemple. Donc, ils avaient quand même des forfaits un peu de dernière minute. Donc, je l'imaginais moins fort qu'avant. Mais de nouveau, Ils sont toujours présents sur ces chronos par équipe. Collectivement, c'est une machine qui marche bien. Ils l'ont encore prouvé aujourd'hui. Ils ont couru à la perfection. Et il faut toujours avoir dans ce format-là un grand leader pour terminer le travail. Et Vingegaard montre qu'il est très en forme.
Avant de t'entendre, Jérôme Pinault, on va redonner les classements parce que c'est tout chaud hein, quand même ici côté de Montjuïc. Donc, pour que tout le monde ait l'esprit clair dans cet after-tour, on redonne, Christophe, les classements. D'ailleurs, d'abord, l'équipe. Le vainqueur.
Ouais, alors y a
c'est un peu particulier.
Il y a deux classements dans cette étape, puisque c'était un contre-la-montre par équipe. Et en même temps, c'était un contre-la-montre individuel. Donc, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Sachez tout de même que c'est donc la formation Visma Liseberg qui s'impose dans le temps de 21 minutes 47 secondes, avec donc 8 secondes d'avance sur la formation Netcompany Ineos, emmenée par Philippe Ogana. L'équipe de Tadej Pogacar, emmenée donc par le vainqueur sortant du tour, termine troisième avec un retard de 12 secondes. Suivent Lidl Trek et Juan Ayuso qui est à 16 secondes. Evenepoel pour la formation Red Bull Bora qui est à 19 secondes. Et l'équipe Decathlon, emmenée donc par notre jeune leader Paul Sexas, qui termine avec un retard de 39 secondes. Et au classement général, puisque là, on ne compte que ceux qui ont terminé donc en tête de leur équipe, Jonas Vingegaard s'impose et remporte et décroche le maillot jaune. Il devance Philippe Ogana de 8 secondes, Tadej Pogacar de 12 secondes, Ayuso est quatrième à 16 secondes, Remco Evenepoel, le champion du monde de l'exercice, est cinquième avec un retard de 19 secondes. Suivent Del Toro, hein, le coéquipier de Pogacar, qui est à 26 secondes, Piganzoli, l'équipier de Vingegaard, qui est à 28 secondes, Lipovic, troisième du dernier tour, qui est à 35 secondes, et le premier français, c'est donc Paul Sexas, qui est ce soir dixième au classement général, avec un retard de 39 secondes, soit le même temps que Mathieu Van Der Poel, et notre champion de France, qui s'est emparé du maillot bleu-blanc-rouge la semaine dernière, Romain Grégoire, signe une très belle 12e place avec un retard de 41 secondes. Voilà donc pour le classement général. Si vous voulez savoir quels sont les autres porteurs de maillot, parce qu'on a des porteurs de maillot. Oui, j'ai tout ça.
En magasin.
Le maillot vert de meilleur sprinter, et ça, c'est quand même une surprise, et ce soir porté par Egan Bernal, un vainqueur du Tour en 2019, qui n'est pas réputé quand même pour avoir des grosses cuisses et avoir une pointe de vitesse incroyable au sprint. Hein. Mais bon c'est
comme ça. Jalabert est passé de sprinter à grimpeur. Egan Bernal fait peut-être l'inverse, de grimpeur à sprinter.
Richard, as-tu déjà porté le maillot vert de meilleur sprinteur du Tour de France ?
Oui, dans mon premier Tour de France.
Exactement.
Puisque j'avais pris tous les maillots. Hein, donc,
voilà.
J'avais eu cette chance.
Et il y a pas d'anecdote. Photos, c'est des photos collecteurs quand même.
Celui-là, tu l'as gardé en collection, non ?
Et en fait, qu'est-ce qui est rigolo, c'est que quand j'ai perdu mon maillot jaune, c'était Pascal Lino, mon équipier, qui me l'avait pris. Il m'avait remis le maillot vert et moi, j'en voulais pas. C'est-à-dire que Aïsso me disait « Oui, tu dois prendre le maillot vert. » Je dis « Non, mais moi, je veux le maillot à poids. » Il me dit « Non, non, le maillot vert est
au-dessus du maillot
à poids. » Oui, parce qu'il y a une
hiérarchie dans les maillots. Ouais,
et, voilà. Et donc, je faisais un peu la gueule et j'avais fait un contre-la-montre par équipe avec un maillot vert, pour vous dire. Donc, voilà.
Le maillot à poids, justement, dont Richard parlait, pour Tadej Pogacar, c'est-à-dire que c'est lui qui a donc réalisé la meilleure montée. Hein, on rappelle que Vingegaard est maillot jaune, mais la meilleure escalade de Montjuïc, c'est pour Tadej Pogacar. On n'a pas encore les chronos, on les aura peut-être un peu plus tard. Et le maillot blanc, là, c'est avec des chronos. Il est donc porté par Juan Ayuso, le régional de l'étape hein, de la formation Lidl Trek, qui possède 10 secondes d'avance sur Del Toro. Piganzoli, le jeune Italien, est troisième à 12 secondes et Paul Sexas, quatrième à 23 secondes. Romain Grégoire est encore dans ce classement du maillot blanc. Romain Grégoire est cinquième avec un débours de 25 secondes. Voilà donc pour les classements, Pierre-Yves.
Jérôme, Jonas Vingegaard, une image. Il est maillot jaune, il est souriant. On a vraiment l'impression d'avoir un personnage heureux qui vient taper du poing sur la table dès cette première étape. C'est une surprise quand même.
Une demi-surprise. Surprise, oui et non. Une surprise, disons que son équipe est très bien constituée. Et là, ce qu'on peut retenir surtout, c'est qu'ils ont été les plus solides. Personne chez Visma Liseberg, à contrario de certaines autres équipes, n'a manqué à l'appel. Peut-être que Tadej Pogacar perd du temps parce que Nils Politz a fait 5 km dans ce groupe et 6 km et il s'est écarté. On a vu aussi beaucoup de coureurs coincés avant le final. Philippe Ogana a perdu Vauclin sur crevaison. Lipovic a été incapable d'accompagner Remco Evenepoel. Donc finalement, avec le grand coup de chapeau à Davide Piganzoli, ce jeune coureur italien, très très fort sur le Giro, vainqueur de la route d'Occitanie très récemment, qui vient encore lancer son sprinteur danois, son grimpeur danois, son leader danois dans la dernière montée. Surprise de voir Jonas Vingegaard remporter ce chrono avec l'équipe Visma et The Bike. Oui, c'est une demi-surprise. On n'attendait pas l'équipe Visma et The Bike à pareille fête. Mais je pense que c'est surtout la contre-performance, ou en tout cas le manque de chance de l'équipe Netcompany Ineos, qui vient faire que Vingegaard est en jaune ce soir.
On rappelle quand même que la formation Visma avait donné un premier coup d'alerte en disant on est là et on sera là sur le chrono par équipe, en remportant la même épreuve sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes il y a quelques semaines, Jérôme. Hein. Donc c'est une surprise sans en être une totale. En l'absence en plus de Vingegaard qui n'était pas là sur le Tara.
Oui, et puis au Tara, il y avait Wout van Aert qui n'est pas là sur le tour, mais qui avait pété au bout de 10 minutes, qui n'était pas du tout en forme ce jour-là. Mais d'une manière générale, cette équipe, même si le format est différent, elle fonctionne toujours très bien collectivement. Chrono par équipe, ils sont toujours là. Alors là, on avait un peu des petites interrogations, parce que Van Aert pas là, Vingegaard qui sort d'un Giro, etc. Mais en fait, la cohésion d'équipe, ils l'ont quand même. Et eux, on en parlera peut-être plus tard, mais ils ont fait le chrono par équipe comme si c'était un chrono par équipe classique jusqu'aux 3 derniers kilomètres. En fait, ils ont perdu très comme l'a dit Gégé, ils ont perdu très peu de monde dans les 4-5 premiers kilomètres comme d'autres équipes. Et ça, c'est les forces qui leur ont permis à la fin d'aller grappiller les secondes pour gagner l'étape.
Richard, toi, comment tu as lu ce chrono? Parce que c'était assez compliqué hein, entre contre-la-montre par équipe et contre-la-montre individuelle. Il fallait vraiment s'organiser. Est-ce que tu as eu l'impression, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais que certaines équipes n'étaient pas du tout prêtes non plus pour cet exercice et que peut-être c'est du côté de la Visma Lease the Bike avec Jonas Vingegaard où on avait le plus pensé cet exercice particulier?
Comme l'a dit si bien Jérôme Pinot, ils étaient très organisés et ils ont eu la baraka. Donc, tout allait bien comme il fallait. Et ce qui m'intéresse, on va le savoir dans quelques minutes, c'est la montée, le chrono exactement. Parce que là, on va voir l'état de Pogacar avec Jonas Vingegaard. La montée, combien de secondes ils lui ont mis? S'ils sont à 1 ou 2 secondes ou s'ils sont à 7-8 secondes dans la montée? Parce que là, ça va donner aussi une tendance de l'état de forme des deux cadors de ce tour hein, qui vont se battre. Une autre information aussi qu'on n'a pas dans les classements, mais que peut-être on a, c'est la moyenne. Ça m'intéresserait de savoir à quelle moyenne ils ont roulé ces 22 minutes, parce que ça, c'est aussi impressionnant pour vous dire la vitesse que ça a dû rouler.
53,950 pour la team Visma Lease the Bike.
53 de moyenne.
Ouais. Ouais.
Et Richard, 54, Richard ouais, sur la montée, ce qu'on peut d'ores et déjà affirmer, c'est que Pogacar et Del Toro sont montés plus vite que Vingegaard, que Piganzoli, Pogacar et Del Toro. Jérôme, ils étaient à deux dans cette montée. Pas jusqu'en haut. Sur ces deux coureurs-là, Jorgensen, Vingegaard et Piganzoli sont allés moins vite. Ça ne veut pas dire grand-chose ce soir, mais non. Ça veut dire que Poggi est monté très vite la dernière bosse. Hein,
ouais, on l'a vu passer la ligne, même dans les 200 derniers mètres. On le voit en remettre. Et Vingegaard, il a bien monté aussi, mais c'est les chronos qui vont parler. Hein, parce que je pense que Pogacar, arrivé à 700 mètres, il était autant entamé que Jonas Vingegaard. Et c'est là les ressources qu'ils ont eues pour finir ces 700 derniers mètres. Combien de secondes il lui a mis? Si c'est quelques secondes ou si c'est un gros sac. Quoi. Donc c'est intéressant de voir, parce que c'est là où on va savoir si Jonas, il est vraiment, vraiment à armes égales avec Pogacar. Bon, on parle juste d'un sprint, hein, parce que c'est un sprint, on n'a qu'une étape, on s'enflamme là pour les 19 premiers kilomètres, alors qu'il reste 3300 kilomètres avec 8 étapes de montagne. Mais bon, c'est vrai que le match est lancé et c'est pas mal aussi que le duel commence entre ces deux-là, ouais, parce que je pense que ça va être coup pour coup. Parce que là, je pense que pour Tadej, pour le connaître, va dégoupiller dans quelques jours pour lui montrer que c'est lui le plus fort. Sûrement.
On a ce temps de monter.
Alors, ouais, on a. Alors, je sais pas comment interpréter cette stat. On a les meilleures équipes entre le kilomètre 15-9 et le kilomètre 19-6. Donc
la dernière portion.
La portion montante. C'est UAE qui a réalisé le meilleur temps, mais la team Visma est à 1 seconde 81,
ouais,
derrière
ça. Donc ils sont montés dans quasiment à la même vitesse les deux, que ce soit Poggi ou Vingegaard. Maintenant c'est peu d'enseignements. Ce qu'on sait, c'est que les deux sont en forme, que les deux avaient bien préparé leur moment, et au petit dans le petit registre de la bataille de qui va aller faire dodo le plus tôt avec le massage avant l'autre parce qu'on va éviter le protocole. Un manque de peau, Tadej est monté trop vite.
Maillot à point.
Bah oui, c'est pour ça. Gachar, ouais. Donc Tadej est monté trop vite, il va quand même aller au protocole.
Un massage tout de suite.
Malgré tout, tu soulignais ça, Jérôme Coppel, tout à l'heure. Peut-être qu'il est le vainqueur masqué, Tadej Pogacar, dans cette histoire, parce que désormais, ben, il n'a pas à faire subir à son équipe le poids de la course.
Oui, alors on disait hier que c'était facile de laisser le maillot jaune. On gagne une étape, après on peut le laisser, mais pas demain. Demain, cette étape, alors beaucoup de coureurs et d'équipes vont être intéressés par cette arrivée ici à Barcelone.
Ni après-demain, peut-être.
Ni après-demain, mais ils vont quand même devoir, en tout cas au début, assumer le poids de la course. Et quand est-ce qu'ils vont avoir de l'aide de l'équipe de Mathieu Van Der Poel, peut-être de la Groupama FDJ United avec Romain Grégoire qui a fait une super dernière montée? Ben, ouais, est-ce que le vainqueur, au final, c'est pas Tadej Pogacar? Moi, je pense que pas prendre le maillot sans être trop loin, c'est une bonne affaire pour lui.
Moi, j'ai hâte, les copains, d'être à lundi, parce que demain, c'est une étape qui va aussi concerner un certain Mathieu Van Der Poel et un certain Michael Matthews et d'autres punchers comme Romain Grégoire. Après-demain, ça va être le match psychologique entre UAE et Visma commence lundi. Est-ce qu'on laisse partir une échappée?
Pour toi, il commence pas demain.
Il commence pas demain.
C'est dur demain. C'est dur.
Oui, mais demain, il va y avoir les équipes de sprinteurs et comme Mathieu Van Der Poel qui vont s'occuper de la chasse, qui vont pas laisser partir une échappée. Ils veulent gagner cette étape. En revanche, lundi, c'est l'étape parfaite pour laisser partir un coup et laisser partir le maillot. Mais est-ce que Vingegaard va se désintéresser de garder ce maillot? Et s'il le fait, est-ce que UAE va dire non, nous on roule, on ne veut pas prendre de risque d'avoir un très bon coureur qui puisse être en kikinant pour le classement? Donc, cette étape de demain va jouer, peut-être forcément va se jouer sur le final, dans le circuit final. Celle de lundi va très certainement se jouer très tôt dans l'étape parce qu'on le sait, il y a un col difficile, Christian Prudhomme nous l'a informé. Et la bataille psychologique va démarrer. À toi, à moi, qu'est-ce qu'on fait? C'est toi le champion, tu as le maillot jaune, puisque tu as le maillot jaune, tu as gagné à Montjuïc. Vas-y, fonce, on va rigoler. Je pense qu'on va rigoler, ça va être du beau sport.
Richard, selon toi, c'est mieux de laisser le poids de la course à une autre équipe et Tadej Pogacar, finalement, il est plutôt en position confortable aujourd'hui?
Oui, il est dans la meilleure position hein, qu'il peut avoir. Il démarre le tour et il va bien. Et comme on le voit sur ce parcours du tour, c'est la dernière semaine hein, qu'on va mettre on va dire, la balle au fond. Donc je pense que même pour Vingegaard, hein, vous l'avez vu courir dans les tours précédents, c'est un coureur qui court quand même au millimètre. Hein. Il ne lâche pas trop les chevaux. Bon là, malgré lui, il est maillot jaune. Mais je pense que ce maillot, il y a des coureurs qui ont fait des performances un peu en second couteau aujourd'hui, qui peuvent aller le chercher. Et il faut se donner un peu d'espoir. Et le maillot va bouger. Et ça, c'est une certitude.
Bon, en tout cas, il porte un beau maillot que tu connais bien, Richard. Le maillot à poids, Tadej Pogacar, pour aujourd'hui. Vous les avez sentis au top, les deux? Ils sont vraiment prêts. Au moment où ils ont lâché leur dernier équipier, c'était quand même assez semblable, similaire. Hein. On a vu deux fusées partir. Bah,
bien sûr, si on prend, alors on répète pas les temps, mais le maillot à poids donne le classement de la montée, même si on n'a pas les temps purs. C'est Pogacar devant Vingegaard et Remco Evenepoel. Donc si tu es capable de faire la dernière montée très vite, ça va jouer à une poignée de secondes entre ces trois coureurs-là, par exemple. C'est qu'ils sont très bien. C'est toujours bien d'entamer le tour de la meilleure des manières. Personnellement, il n'y en a pas un des deux qui m'a fait une plus forte impression que l'autre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont à peu près le même temps de montée. On verra ça plus tard.
Je dirais match nul entre les deux aujourd'hui.
Ouais, alors ils n'ont pas le même style. Hein. Vingegaard est resté un peu plus assis, il a relancé qu'une fois, alors que Pogacar s'est mis plusieurs fois debout sur la fin de la montée. Ouais, pour moi, je n'arrive pas à me dire aujourd'hui s'il y a vraiment un vainqueur entre les deux ou un des deux qui est plus fort que l'autre.
Toi, Jérôme, qui m'a impressionné.
Richard.
Ouais, c'est Remco, quand même. Il m'a impressionné dans les 200-300 derniers mètres. Franchement, je l'ai vu finir costaud. Donc, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez,
temps.
Mais
il avait
un coup de pédale, ça parlait quoi, hein, ça sentait il est affûté, il a perdu du poids et je sais pas, mais je le sentais bien le garçon. Hein.
Et sachant Richard que lui, pour le coup, a été la locomotive de son équipe. Hein. Il a passé les relais. Jonas Vingegaard, lui, est resté en retrait et laissé faire les autres. Lui, il a éroulé sur le plat et fait la montée. Maintenant, on n'est pas en train de prendre des, de faire des conclusions de cela aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que sur le schéma contre la montre, on le sait que Remco est beaucoup plus fort que ces deux-là. C'est un effort qui l'affectionne. Il est champion du monde de la discipline. Quel que soit le parcours, Remco, quand il y a un chrono, il est devant. Donc, on n'est pas surpris par sa performance.
Alors, on aura une rubrique pendant tout cet after tour.
Faire une rubrique, si
on peut faire une rubrique aussi, mais comme on aura un jingle qui sera enregistré, il faut qu'on le refasse. Donc, on va rester sur la rubrique du carton. Messieurs, vous aurez l'occasion, chacun à votre tour, pendant l'after tour, pendant ces trois semaines, de nous faire un petit carton. Et le premier carton, on l'offre vraiment, il est offert à Jérôme
plateau.
Coppel sur un plateau.
Il le confectionne depuis 3-4 jours.
Ah, vous allez plus que ça, me dire si vous êtes d'accord ou pas après.
Non, mais c'est vrai qu'on a vécu un exercice un peu particulier qu'on ne connaissait pas, mixte entre le contre-la-montre par équipe et le contre-la-montre par individuel. Ça n'a pas été forcément facile à suivre. Ce n'est pas facile non plus à délayer ensuite sur les classements. Bien, je te laisse t'exprimer, toi, le spécialiste de cet exercice.
Bah, tu as déjà quasiment dit tous les arguments. La première chose, c'est, pour moi, c'est illisible. On est une heure après l'arrivée. On a un maillot de meilleur grimpeur qui est Tadej Pogacar, mais on ne sait pas vraiment le temps, on n'a pas d'écart avec les autres. On voit des coureurs, quelqu'un qui allume la télé au milieu du chrono, il ne sait pas s'il est un chrono individuel, un chrono par équipe. Pour filmer, c'est très dur. On parlait de Remco Evenepoel. Il a quand même le troisième du tour l'année dernière dans son équipe. On ne l'a pas vu passer la ligne. On ne sait pas avec combien de retard, on ne sait rien. On a les équipes. Donc Vingegaard arrive tout seul, meilleur temps, on ne sait pas le temps des autres coureurs. Bon, il y a. Après, on va débattre sur les stratégies, etc. Mais ça, c'est propre à chaque équipe qui met sa propre stratégie. Mais nous, en tant que suiveurs et téléspectateurs, désolé, mais on ne comprend rien. Et on perd l'essence même du chrono par équipe, qui est d'être collectif. On a vu, alors certaines équipes, c'est un peu le bazar, ils attendaient, etc. Mais au bout d'un moment, on voit Vingegaard qui arrive et qui dépasse un Red Bull Bora qui doit même faire un écart à 100 mètres de la ligne. Enfin, je comprends pas vraiment l'intérêt de ce format-là. Et ensuite, dans le classement, on n'arrive pas à voir le classement. On n'a rien, en fait. Si au moins tout était bien calé, on avait les temps de chaque coureur. Hop, Lipovic, il s'est fait lâcher par Remco Evenepoel, il a perdu tant de temps. Non, moi, je suis revenu à mon papier, mon crayon, pour prendre des temps moi-même sur chaque coureur. Enfin, on est quand même en 2026, ça me paraît dingue d'en arriver à là, et surtout de voir des coureurs qui arrivent solo alors qu'on est sur un chrono par équipe.
Moi, je trouve qu'il manquait
donc,
à ça...
Changeons le nom ou revenons à l'ancien format, et au moins, on aurait peut-être eu plus d'écart parce que les équipes auraient dû éventuellement attendre des coureurs qui avaient des défaillances.
Ouais, alors... pour prendre le ton de l'humour pour commencer. Après, je serais plus sérieux. J'aurais aimé qu'on puisse mettre des pots de bananes, des Pokémon, des fusées ou des taches d'huile pour les faire... Ouais, parce que c'était un peu ça.
Pour toi, c'est gadget.
C'était un peu ça parce que je rejoins, mais à 200% Jérôme. D'une part, il ne reflète pas un résultat collectif dans sa totalité. On aurait assisté à un beaucoup plus beau spectacle si on avait pris ça sur trois coureurs.
C'est un chrono par équipe sur 15 kilomètres.
Exactement. Et, ensuite, et puis sur trois coureurs, aujourd'hui, ce ne serait pas le classement.
Formule hybride.
Ce ne serait pas le même classement. Et puis la dernière chose, c'est quand on fait ça et qu'on connaît le format du contre-la-montre du jour, que la technique anticipe et nous donne des vraies informations, que la technique suive l'évolution du règlement. On n'a eu à aucun moment l'incrustation du nom du coureur que l'on voyait accompagner son leader. On n'avait aucun temps individuel, puisque c'est celui-là qui compte pour donner le maillot. Et Jérôme l'a dit, par exemple, Florian Lipovic, il faut attendre 20 minutes après son arrivée pour savoir combien de temps il a perdu sur les principaux favoris. Lipovic, c'est juste le troisième du tour l'an dernier. Donc, si on fait ça, il faut que tout suive. Et il faut qu'on ait les infos. Si on met un nouveau format en place, c'est pour la télévision, c'est pour les gens qui suivent, et donc il faut qu'ils soient informés. Et là, pour le coup, je rejoins et à 100%.
Même encore plus loin, ça crée tellement de situations, c'est-à-dire que tu as une équipe qui est au départ, qui a deux coureurs qui se font lâcher, donc la caméra est sur eux, résultat, on ne voit pas Red Bull Bora passer le dernier kilomètre, qui a quand même le champion du monde, Remco Evenepoel. Donc, en fait, tu vois tout et rien en même temps, c'est illisible. Et le principe du vélo, quand même, et d'une épreuve, surtout le chrono par équipe, ou le chrono, c'est que ça soit lisible. Tu passes le temps intermédiaire, tu sais où tu en es.
On est quand même encore un petit peu en direct à Montjuïc, donc on va retrouver Bruno Armirail derrière la ligne.
La Visma et Jonas qui prend le maillot jaune.
C'est cool, c'est une victoire d'équipe, donc c'est sympa, ça fait toujours plaisir, une victoire, première étape, donc ouais, c'est sympa, et puis Jonas prend le maillot, donc c'est vraiment cool.
Vous avez des airs de plan parfait la journée.
Oui, 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 on va pas dire le contraire, c'est sûr. Après, voilà, comme je l'ai dit, on avait une stratégie peut-être différente des autres. C'était Davide, Piganzoli, Jonas et Sepp qui ne passaient pas de relais sur tout le plat. Donc on a tourné que à 5, voire même 4,5, enfin, parce que Matteo il a arrêté de rouler au bout de 10-12 bornes. Donc, mais c'était prévu pour qu'il fasse la bosse et la descente après. Donc voilà, c'était dur de maintenir l'écart par rapport aux autres équipes qui devaient tourner à 7 ou 8. Mais on a réussi à le faire, donc voilà, je pense qu'on est satisfait de ce qu'on a fait sur le plat aujourd'hui. Puis après, ben, les grimpeurs, ils ont conclu, donc c'est super.
C'est un tour qui quelque chose pour la... C'est un tour qui démarre idéalement.
Oui, 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 c'est sûr que c'est un tour qui démarre idéalement. Après, on n'est qu'à la première étape, mais ouais, prendre le maillot et avoir un petit peu d'avance au classement général, on va pas dire le contraire que c'est nul, quoi.
Et pour la confiance, pour la suite, ça peut changer quelque chose de prendre le maillot jaune?
Ouais, pour la confiance et la suite, oui et non. Après, on est confiant. Voilà, on sait que Jonas, il marche fort. Et comme je dis, c'est toujours vaut mieux avoir de l'avance que du retard. Donc, bon, après, la confiance, ouais, on verra au fur et à mesure des jours.
Bruno Armirail, donc le Français de cette équipe Visma Leasebike, qui a donc remporté l'étape du jour. Et Richard Virenque, on le disait tout à l'heure, c'est un bon coup pour le mental, et il le dit à l'instant. Toi, ça serait quoi la stratégie désormais alors pour cette équipe? Tu dirais, allez, on a gagné, on a déjà ce maillot jaune, on a marqué un peu notre territoire. Maintenant, dans les 2-3 jours qui viennent, on va lâcher un peu.
Oui, moi, je laisse la patate chaude à Pogacar qui lui dit, voilà, j'ai gagné la première étape, mais c'est à toi de gérer derrière. Parce que derrière, Pogacar a donné tellement d'informations depuis le début de saison, très fortes, même si Jonas a gagné le Tour d'Italie. L'homme à battre, c'est quand même Tadej Pogacar. Donc je pense que je laisserai courir parce que le Tour vient que de démarrer. Il est long. En plus, qu'est-ce qui est bien pour ces leaders-là? On l'avait dit hier, c'est-à-dire qu'on va partir sur des étapes accidentées, pas comme des étapes de plainte où il y a 180 coureurs qui sont là pour être en première ligne. Là, dès que ça va monter, avec les montées, les descentes, tout ça, il va y avoir de la sélection. Donc, ça va être beaucoup plus fluide. Il va avoir peut-être moins de chutes. Vous voyez, ça va être beaucoup moins stressant pour les leaders. Mais moi, je laisserai partir pour le maillot jaune. En tout cas, je laisserai partir une échappée pour qu'il y en ait d'autres qui prennent un peu les bouquets. Et est-ce que je peux revenir aussi sur le côté de l'arrivée de Montjuïc? Je pense que ce contre-la-montre par équipe, c'était pas mal, mais je pense qu'il aurait fallu peut-être une arrivée pas là-haut, une arrivée plus sur le plat où on voit arriver 5-6 coureurs, ou que ça se passe au millième de seconde, qui se battent entre les grands spécialistes d'un contre-la-montre par équipe. Là, c'est sûr que c'est sympa cette arrivée à Montjuïc, mais ça a un peu bouleversé un peu tous les, on va dire, tous les pas les scénarios, mais comme on dit, tous ceux qui prennent les chronos, que pour les
ouais,
ceux
c'est
qui
pas prennent un chrono par équipe, quoi.
Ouais, voilà. Donc on a un peu bouleversé tout ça pour faire un spectacle un peu, parce qu'à chaque fois quand on connaît Barcelone, pour moi, pour avoir connu là-bas à Barcelone et avoir fait des courses à Barcelone, à chaque fois qu'on va là-bas, à chaque fois que ce soit les critériums et tout ça, à chaque fois ils nous font monter là-haut au truc olympique, et on monte et on redescend, et on monte et on redescend. Et là, forcément, ils ont voulu faire le départ du tour, et bien sûr, et pour remonter et pour redescendre. Donc voilà, donc c'était pour faire cette fête, et que pour les spectateurs aussi, vous avez vu le monde au bord de la route, c'était vraiment une belle fête populaire, et c'est plus facile,
Richard,
de voir des
coureurs. Je t'interromps juste un instant, puisqu'on a Jonas Vingegaard en direct avec Kevin derrière la ligne.
C'était
le meilleur plan pour nous.
J'ai pu économiser beaucoup de watts.
Et puis on a fini avec trois garçons. Ouais, c'était le mieux pour nous.
Oh, it's really amazing for me. It's something I dreamed of since 2023.
C'est vraiment fabuleux pour moi. J'avais pas pris le maillot jaune depuis 2023.
Even if it should only be for a short time, I would really.
Et même si c'est vraiment pour un très court moment, c'est toujours un immense honneur de porter le maillot jaune dans le vélo.
Yeah, I mean, of course, the gaps are small, but.
Oui, les écarts sont très courts.
In the and we'll have to find the best possible tactics for that.
Et nous avons un plan, c'est d'être en jaune, non pas ici à Barcelone, mais à Paris. Et il va falloir adapter la meilleure tactique possible pour cela.
On va enchaîner avec la journée des Français. Et on commence évidemment avec la journée de Paul Seixas, parce que c'était celui qu'on attendait particulièrement aujourd'hui. Paul Seixas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Tiens, Christophe, on ne t'a pas beaucoup entendu depuis le début de cette émission. On promettait beaucoup de choses à Paul Seixas. On veut en même temps être prudent. On a été un petit peu inquiet sur le début de la course. Et puis, on s'aperçoit qu'au niveau des temps, ça reste raisonnable.
Oui, on rappelle qu'il est dixième ce soir au classement général. 39 secondes de retard sur Jonas Vingegaard. Seixas qui m'a fait forte impression dans la montée. Hein. Franchement, il a lâché ses derniers équipiers qui tentaient de s'accrocher. On a vu notamment
Richie Tello
qui était en danseuse, l'autre était assis sur sa selle.
C'est aussi rassurant, Richie Tello, parce qu'il était malade au Tara, il a fait un tour de Suisse pour rattraper un peu le manque de compétition, donc c'est quand même rassurant de le voir là.
Mais bon, c'est vrai que Paul a fait une bonne impression, on sait que c'est un formidable rouleur, c'est un formidable grimpeur. Il a été, je pense, à la hauteur de ce qu'on attendait, ce qu'on espérait de lui. On va pas dire qu'il peut battre Pogacar, ni Vingegaard, et surtout avec son équipe qui n'est pas non plus composée que de rouleurs. Hein. On a mis la priorité quand même sur des coureurs qui vont à la fois grimper, et puis on rappelle qu'il y aura aussi une partie de sprinteurs dans cette équipe. Non, moi je l'ai trouvé à la hauteur de son rang, de ce qu'on espérait. Il n'est pas en tête, il n'est pas dans le top 5, il est dans le top 10 et il est quatrième au classement du meilleur jeune pour l'instant.
Richard, il a limité la casse, Paul Seixas, aujourd'hui ?
Oui, il a lancé son premier Tour de France. Non, je crois qu'il a été... Je l'ai vu pédaler dans le final, même avant, il a pris ses relais, il a été à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Je pense qu'est-ce qui va être important, c'est dans les trois premiers jours, voir comment il se ressent, parce que là, on était sur 19 km. Il ne faut pas oublier qu'il est sorti, par terre il n'y a pas si longtemps que ça. Et c'est la course qui va lui permettre de remettre en route vraiment. Mais non, pour l'instant, tout va bien. Tout va bien pour le Lyonnais.
On va voir du côté de cette équipe Décathlon CMA CGM justement comment ça a été vécu aujourd'hui avec notre reporter qui est toujours au cœur de cette équipe, Léna Marjac. Bonsoir Léna, comment tu as vécu et comment a vécu cette équipe aujourd'hui cet exercice particulier du contre-la-montre par équipe, à la fois aussi individuel avec Paul Seixas qui passe la ligne tout seul?
Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'attentes aujourd'hui. On l'avait quitté avec cette chute sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Donc il y avait quelques petites interrogations. C'est un peu ce qu'on a senti à l'arrivée, en tout cas, où tout le monde était finalement plus ou moins rassuré. Et on a trouvé un Paul Seixas dans sa bulle, très concentré. C'est-à-dire que quand il était face à nous, les journalistes, pour nous parler, ça a été des réponses très courtes, très concises. En clair, et voilà, il a un objectif en tête. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, il a limité la casse, il est content de ce qui s'est passé, il s'est rassuré aussi. Il nous a parlé un petit peu de ses émotions aujourd'hui parce que ça restait une première pour lui d'être sur ce tour de France, mais les émotions aujourd'hui en par équipe c'était un petit peu plus différent. Ce sera demain vraiment où il va se tester, mais en tout cas aujourd'hui tout le monde était content, il y avait des sourires à la fin au bus, il y avait du monde aussi pour l'accueillir parce que vous le savez, Paul Seixas, voilà, à 19 ans, il attire un peu les foules, il attire le monde, il a signé pas mal d'autographes, mais en tout cas ce qu'on peut retenir aujourd'hui c'est que chez Decathlon c'est CGM, ils ont été confiants et jusqu'au bout d'ailleurs, et qu'ils sont contents ce soir, maintenant à voir demain ce que ça va donner pour la première étape en ligne pour Paul Seixas.
Jérôme Coppel, tu connais bien l'environnement aussi de Paul Seixas, cette équipe. À ton avis, ce qui explique Léna à l'instant, eh bien, c'est plutôt effectivement le ressenti qu'il faut avoir, c'est-à-dire des sourires. Ça s'est plutôt bien passé. C'est une première étape. Il faut rentrer dans le Tour de France. Hein.
Bien sûr, c'est une première étape. Ils ne sont pas du tout passés au travers. Il est dixième du classement général ce soir, Paul Seixas. Christophe l'a dit, ils n'ont pas la même équipe pour le chrono par équipe que Visma Lisebike, Netcompany, Neos ou UAE Emirates. Donc, ils ont plutôt bien limité la casse. On a surtout vu, parce que l'enseignement, c'est ça, c'est dans quel état était Paul Seixas après sa chute, pour sa reprise. Ça a été vite réglé, il a mis tout le monde au supplice dans sa propre équipe, on a bien vu qu'il était très fort, il fait une bonne dernière montée, c'est un très bon départ. Alors oui, si on prend que le chrono, il est à 39 secondes de Jonas Vingegaard, mais est-ce que c'est vraiment Jonas Vingegaard son adversaire? Oui, le classement général, mais on ne sait pas encore s'il joue dans la même cour. Il est qu'à 4 secondes d'un Lipovitz, qu'à 13 secondes de Del Toro, 20 secondes d'Ayuso. Donc, finalement, c'est une bonne journée pour eux, surtout que c'est jamais facile de commencer par un chrono par équipe.
Il a aussi eu aujourd'hui le rôle que n'ont pas eu Vingegaard et Pogacar. Il a roulé sur le plat, il a été obligé, vu la composition de son équipe, avec Remco Evenepoel. C'est eux qui ont fait le plus complet des chronos. Juan Ayuso, pardon, n'a pas participé non plus à l'effort collectif sur le plat. Et finalement, Jérôme, est-ce que ce ne serait pas Paul Sexas le grand vainqueur de cette nouvelle formule ? Parce que si ça avait été un contre-la-montre par équipe, Jérôme, est-ce que ça aurait donné le même résultat ?
Peut-être que la composition aurait été différente aussi. Il serait
tu mets qui pour gagner le chrono par équipe ?
Non.
Stéphane Bisseguer était au Tara, il n'a pas montré des signes de satisfaction, il n'a pas rassuré son monde.
Après, c'est plutôt un spécialiste, logiquement.
Donc ça veut dire que si on veut gagner le tour... pour Paul Sexas, j'adore cette nouvelle formule, finalement. Voilà, ça a servi à un Français, j'adore, je retire mon carton rouge, c'est incroyable.
Non, mais ça veut dire que s'il envisage de remporter le tour dans les années à venir, il faut se renforcer.
Sauf s'il n'y a pas de chrono par équipe.
Après, on sait que les organisateurs du tour dessinent aussi des parcours du tour en fonction de leur desiderata. Et s'ils veulent vraiment que Sexas gagne le Tour de France, peut-être qu'on lui mettra des étapes qui lui conviennent un peu plus.
Ouais, et puis si ça avait été un chrono individuel, j'aurais été curieux de voir où il était, Paul Sexas, par exemple, aujourd'hui. Donc on a fait cette formule hybride, on aime ou on n'aime pas, mais un chrono individuel sur le peu qu'on a vu, il avait l'air très très bien.
Un chrono individuel, ça aurait été impressionnant.
Pendant longtemps, tu dis le tracé du tour par rapport aux Français, et tant mieux, mais quand on avait Thibaut Pinot, Romain Bardet, on enlevait un peu des chronos, on en mettait au minimum.
Là, on va peut-être en mettre un peu plus, en individuel en tout cas, peut-être pas par équipe.
Exactement.
Il est en tout cas le premier Français au classement général aujourd'hui à la 10e place. Mais on attendait... Oui, tu voulais signaler quelque chose?
Non, je veux dire que moi, il y en a un qui m'a fait forte impression. Je ne sais pas si tu vas en parler.
Bien sûr.
C'est notre champion de France.
Bien sûr.
Romain Grégoire, incroyable dans la montée.
Cinquième temps.
Montée globale. Des 800 derniers mètres, je suis à peu près persuadé qu'il a le meilleur temps.
Complètement dingue. Moi, je ne me l'attendais pas à ce niveau, même si dimanche dernier, il a fait forte impression dans le championnat de France. Mais là... il est dans la forme de sa vie, Romain. Et je l'attends demain, j'ai hâte de le voir demain.
D'ailleurs, Richard, à un moment, on s'est même dit que ce serait lui le maillot à poids, hein, parce qu'il était vraiment impressionnant dans cette dernière montée. J'imagine que toi aussi, tu as été frappé par cet effort tôt, hein, d'ailleurs, dans l'exercice, puisque c'est une des premières équipes qui est passée.
Oui, il a une forme extraordinaire, on l'a vu au championnat de France. Et il faut dire aussi que dans le chrono, il a roulé. C'est-à-dire qu'il n'est pas resté au chaud pendant 10 km. Il a fait la montée au taquet. Non, il a roulé avec ses collègues. Et en plus, il a fini comme un boulet de canon. C'est très encourageant. Et il peut se passer des choses très intéressantes pour lui. Cette première semaine du Tour va sûrement confirmer sa forme excellente.
Eh bien, tiens, ce que je vous propose, c'est justement avec toi, Maria, de revenir un peu sur cette journée des Français et d'entendre pourquoi pas Romain Grégoire. Ça serait encore mieux, je veux dire, si en plus on peut l'entendre.
Oui, Romain Grégoire qui a fait une journée exceptionnelle, hein, vous le disiez. C'est pas un spécialiste du contre-la-montre, forcément. Et ouais, dans cette dernière montée, il a été impressionnant. Je crois qu'il a fait un meilleur temps que Paul Sexas sur la dernière montée, ce qui est quand même.
Ouais, c'est comme a dit Jérôme, il dit pas souvent des trucs intelligents, donc on va quand même lui rendre. Mais c'est la dernière portion entre le dernier temps intermédiaire et l'arrivée. Mais si on avait les temps que des 800 derniers mètres, je pense qu'il doit pas être loin du meilleur temps.
Ouais, donc ce qui est quand même impressionnant pour le champion de France, c'est l'impression que ce maillot lui donne un peu des ailes. Il a d'autres, il aurait un gros objectif avec l'étape de demain. Il en a parlé en conférence de presse. Il a vraiment coché cette étape demain. C'est vraiment pour lui, Romain Grégoire, et ses qualités de puncher. On l'écoute, Romain Grégoire, c'était juste après l'arrivée de ce contre-la-montre par équipe.
On va l'écouter, tôt ou tard. Très certainement.
On finira par
l'écouter. Peut-être plutôt tard que tôt. On aurait bien aimé l'écouter. J'aurais pas dû survendre comme ça l'intérêt de l'avoir.
Il en massage.
Ah oui, c'est pour ça, peut-être.
Un autre Français pour qui ça s'est un peu moins bien passé, vous en avez peut-être pas encore parlé, c'est Kevin Vauclin.
C'est vraiment la
décision.
C'est vraiment le poissard.
Cette saison, il est poissard du début.
Sur le contre-la-montre par équipe, cette équipe, de toute façon, est poissarde. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des choses en interne qui se passent, mais sur le contre-la-montre par équipe du Tour Auvergne-Rhône-Alpes, c'était vraiment l'objectif majeur de l'équipe. Il l'avait annoncé dès le début. Oscar Only chute au final. On prend la décision de l'attendre. Des stratégies parfois un peu incohérentes. Et là, le maillot jaune, on l'espérait sur les épaules de Kevin Vauclin ce soir. Et au final, il crève.
Ouais, bah ça c'est vraiment pas de bol.
C'est la faute, t'as pas de chance.
Il a la poisse, ils vont chercher des petits gains marginaux, mais à quel prix des fois. Alors bon, une crevaison, ça peut arriver à tout le monde, hein, ça c'est pas. Mais c'est vrai que les décisions, que ce soit à Paris-Nice, il a été laissé un peu dans la campagne, l'étape des débordures, ils ont tout misé sur Only. Le chrono par équipe, tu l'as dit, Maria, au Tour d'Auvergne-Rhône-Alpes, bah, il a fallu attendre Only alors qu'il était très, très fort. Voilà, ils ne font pas encore totalement confiance à Kevin Vauclin dans cette équipe. Et aujourd'hui, par contre, là où il a été très bien, Kevin, et très percutant, c'est dès qu'il a eu sa crevaison, il a tout de suite fait signe qu'il ne fallait pas attendre. Il fallait essayer de jouer le classement général. Et ça s'est joué finalement qu'à 8 secondes. Hein. Philippe Ogana termine deuxième de l'étape à 8 secondes.
Et dans ses déclarations aussi, j'ai trouvé qu'il avait été vraiment efficace en disant bah, « voilà, c'est le vélo, ça arrive. Passons à autre chose. »
En enfin, tu sentais qu'il en avait gros sur la patate.
Bien sûr, mais... Non,
franchement, ça s'accumule, les effets de poisse depuis le début de la saison. Kevin qui rêvait, on en parlait en début de retransmission, qui rêvait de ce maillot jaune. Et là, quand tu sens que ta roue arrière commence à chasser, tu te dis « voilà, ça, tout s'envole là, le maillot jaune s'envole. » Et...
Je pense que si Kevin n'aurait pas crevé, ils auraient pu carrément jouer la gagne de ce contre-la-montre. Et parce que 8 secondes dans cette montée avec Kevin à tirer des bouts droits avec Ganna, parce qu'ils auraient fini tous les deux. Hein. Je pense que ça aurait pu vraiment, vraiment faire la grosse surprise. Et il doit, au fond de lui, il doit se dire « je suis passé à côté de quelque chose aujourd'hui ». Parce que 8 secondes, c'est pas grand-chose. Hein.
Tiens, on a retrouvé Romain Grégoire.
Romain Grégoire est de retour.
Il a fini le massage.
On l'écoute.
Bon, non, il n'y a pas de point de vue personnel aujourd'hui, c'est point de vue collectif. Ça reste une belle performance, je pense. À 6 puis 5, on s'est plutôt bien défendu. Je pense les mecs ont vraiment bien géré quand même, malgré le nombre de coups réduit. Moi, j'étais dans le rôle de devoir attendre le final. Donc finalement, moi, ça ne m'a pas changé grand-chose. J'ai fait mon effort un petit peu plus tôt que prévu, mais pas beaucoup. Par contre, les mecs à 4, ils ont vraiment assuré pour garder de la vitesse et garder un temps correct.
Un petit point peut-être sur le classement général des coureurs français après cette étape. Donc 39 secondes de retard pour Paul Sexas, vous en avez parlé tout à l'heure, 41 secondes de retard pour Romain Grégoire, 50 pour Lenny Martinez qui limite bien la casse aussi. Hein. Il avait dit ce matin le maximum qu'il voulait prendre, c'était à peu près une minute, il a 50 secondes. Donc il a bien fait le travail, 57 secondes pour Alex Baudin et 1:14 pour Kevin Vauclin. Là ça fait un peu plus mal.
Et on poursuit sur les coéquipiers de Romain Grégoire. Il y en a deux qui ont chuté lourdement. Clément Berthet et
Guillaume Martin,
qui est parti faire des examens à l'hôpital. Il souffre de la hanche, a priori. On nous dit que c'est pas trop grave, mais bon, une chute dès la première étape, tu vas la traîner quand même pendant un moment. Hein.
Tu la traînes un moment, il fait chaud, c'est jamais bon non plus pour les plaies. Et l'énergie, ça vaut pour Paul Sexas, entre le Tara ici, mais l'énergie que ton corps met à cicatriser et à guérir, bah, c'est celle que tu n'as pas sur le vélo ou pour la récupération. Donc voilà, tomber la première étape du tour, j'ai vécu ça en 2013. Après, c'est pas une partie de plaisir.
Et vu le gabarit de Guillaume Martin-Guyonnet, il n'y a pas grand chose pour l'amortir globalement.
Bah de toute façon, les coureurs sont tellement secs là en ce début de Tour de France et ça sera pas mieux de toute façon dans 15 jours qu'il n'y a pas grand chose pour amortir en attendant les airbags qui viendront peut-être un jour sur les combinaisons des coureurs. Lenny Martinez, on en parlait, il est donc 15e à 50 secondes au classement général et on le retrouve avec Romain Asselin.
Lenny, on est en direct sur RMC. Déjà, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton parcours?
Non, c'était un chrono très rapide, il faisait très très chaud, donc là, c'était vraiment dur de récupérer après l'arrivée. Et voilà, ça va, on est dans les temps qu'on s'était fixés, et voilà, on a tout donné avec Antonio, donc pas de regrets.
Je ne sais pas si tu es au courant du classement, parce que là tu sors du bain froid, mais Vingegaard qui est maillot jaune, Ganna deuxième, et pour l'instant Pogacar troisième.
Ah ouais, ok, j'aurais pas pensé ce classement-là, mais pourquoi pas.
Tu l'aurais vu inversé plutôt?
J'aurais vu UAE, Ineos et peut-être après Visma. Ouais.
C'était quoi tes premières sensations à toi?
Non, les sensations pour moi étaient bonnes, donc je suis plutôt content. Et puis Antonio, les sensations étaient bonnes aussi, donc je pense que ça lance le Tour de France. Donc voilà, hâte d'être demain pour la vraie première étape aussi.
Et puis il y a la troisième aussi, le retour en France, avec les premiers points en classement de la montagne qui pourraient compter. Elle te fait de l'œil ou pas cette étape, avec l'arrivée aux angles?
Je sais pas encore pour l'instant. J'ai pas trop discuté avec l'équipe pour celle-ci. On a un plan un peu plus après sur le tour, mais pour celle-ci, je sais pas encore, on verra.
Qu'est-ce que tu peux nous dire, l'ambiance aussi? Alors déjà depuis la mi-semaine à Barcelone et puis là dans les rues et surtout sur la côte de Montjuïc.
Non, déjà là j'ai essayé de me concentrer sur moi-même parce qu'il y avait beaucoup de bruit et parfois c'est... Ça donne de la force, mais parfois ça fait presque mal aux oreilles. Donc j'essaie vraiment de me focus sur moi-même. Et bon, le public, quand même, ça nous aidait, ça nous poussait. Mais voilà, je trouve que c'est bien. Mais on va tellement vite sur ce chrono qu'on n'a pas le temps de voir les spectateurs. Ouais.
Juste un tout dernier mot, Lenny, sur l'ambiance. Christian Prudhomme, le patron du Tour, disait hier que ce serait la folie furieuse à Barcelone. Tu confirmes?
Ouais, je pense que c'est bien possible. Honnêtement, c'est bien possible. Et J'ai hâte de voir, j'espère que ça va bien se passer.
Merci Lenny.
Voilà, Lenny Martinez au micro de Romain Asselin. On sent là aussi dans ses propos, Jérôme Pinault, la maturité qui a augmenté chez Lenny Martinez. Il est 15e, c'est une belle journée pour lui.
Oui, puis de plus en plus à l'aise aussi avec les médias.
Ouais, tout à fait.
Il est plus posé, il a un plan. Rappelez-vous, cette année, ça m'avait valu l'an dernier la colère de son papa qu'on salue.
Oui, c'est vrai.
Parce que j'avais dit, on a l'impression qu'il est venu là et qu'il n'avait pas de plan, mais là, il en a un. Il nous l'a dit et il sait que la haute montagne va arriver plus tard et on le connaît, son objectif à Lenny.
C'est le succéder à Richard.
C'est le maillot de Richard, hein, c'est le maillot à poids. Donc, effectivement, il a un vrai plan. Et puis, au-delà de la maturité, il a énormément progressé sur le vélo. Lenny est en train de faire une grosse saison, et sur ce Tour de France, j'en suis sûr, on va le voir à l'attaque, on le verra devant dans la montagne, et c'est pas pour nous déplaire, parce qu'il a typiquement le gabarit pour faire un très beau maillot à poids.
Avant de conclure cet after tour avec un petit focus quand même sur la journée de demain, mais dans les after tours qui vont suivre, le dernier quart d'heure sera consacré à un échange avec les auditeurs, avec vous les consultants, Jérôme Pinault, Jérôme Coppel et Richard Virenque. Donc on va se plonger aujourd'hui sur la journée de demain, mais un dernier Français qu'on aurait pu attendre beaucoup mieux, malheureusement, c'est un peu la déception dans cette équipe Netcompany Ineos. C'est Dorian Godon qui, au classement, alors lui, c'était pas forcément le classement, mais moi, je l'imaginais beaucoup mieux. Il est à 2-10, je crois, aujourd'hui, 50e de 10. Et on écoute la déception de Dorian Godon après la ligne.
Ouais, super déçu avec la crevaison de Kevin, c'était notre finisher. Donc, avec Pipo qui était encore super fort et Tobias, les 7 secondes sont ici. Je ne sais pas ce qu'a fait encore UAE, mais ça fait un an qu'on travaille et bon, ça fout un peu les boules après un an de travail. Je ne sais pas finir deuxième ou troisième aussi proche.
Richard, on sait que cette équipe, elle avait beaucoup, beaucoup travaillé cet exercice. Il le dit hein, depuis un an. La frustration, là, elle est énorme pour Dorian Godon. On l'a entendu parce qu'il passe à côté d'une victoire d'étape qui leur tendait quasiment les bras. Qu'est-ce qu'il faut faire dans cette équipe ce soir? C'est quoi le discours à tenir?
Bon, je pense qu'ils ont été à la hauteur tous, mais la malchance les a touchés. Et forcément, il faut inverser cela. On est au départ du tour, il faut se remobiliser. L'étape de demain, se lancer un peu dans les offensives. Je pense que Kevin Vauclin peut peut-être en profiter. Vous savez, quand on est trop près du général, on est un peu trop marqué. Quand on est un peu derrière, on peut revenir en première position avec une échappée. Je pense que Kevin Vauclin va se remobiliser, lui, pour essayer. Parce que je pense que c'est lui, aujourd'hui, qui va mal dormir ce soir. Parce qu'il va se dire, putain, je suis passé à côté de vraiment quelque chose. Parce que son équipe a fait le job. Et ils sont à 7 ou 8 secondes de la victoire. Et lui, il a crevé. Il n'a pas pu faire... il a crevé assez tôt. Hein, je ne sais plus au bout de combien il a crevé. Mais ça a été...
Ouais, environ à 5 km de l'arrivée, environ.
Ouais, voilà, donc 5 km... Et voilà, donc il aurait pu faire un super final et ce n'est pas le cas. Je pense que c'est lui qui doit avoir le plus de regrets et son équipe, c'est une amertume. Je pense qu'ils vont manger ce soir, dîner avec un peu la grimace, mais il faut se remobiliser parce qu'on n'est qu'au départ du tour.
Oui, mais tu as raison. Ce sera peut-être une chance pour lui qui va s'ouvrir en se glissant dans une échappée. Et pourquoi pas celle de demain. Jérôme, tu la connais parfaitement, cette étape de demain. Tu as roulé ici en Catalogne. À quoi ça va ressembler?
Ça va ressembler d'abord.
D'habitude, c'est l'exercice préféré de Jérôme Coppel hein, de nous présenter l'étape du lendemain. Mais là,
il a décidé de bâcher là-dessus.
Non, c'est d'abord une grande partie le long de la mer avant qu'au kilomètre 87, on va tourner à gauche, on va quitter le bord de mer et pour passer un premier col. Pas très difficile, mais une première difficulté, un deuxième catégorie. Mais on va se concentrer surtout sur le final demain. Puisque demain, il y aura un circuit final, c'est très intéressant, avec trois fois la montée de Montjuïc, mais pas par le même endroit qu'aujourd'hui, une pente bien plus raide, avec ensuite une descente et un virage à droite qui nous amènera demain, encore une fois, à ces fameux 800 mètres de l'arrivée que Romain Grégoire a pu repérer aujourd'hui. Vous voyez où je voulais en venir.
Ah oui.
Parce que dans cette arrivée en finale, en montant, il faudra être résistant demain et puncher. On risque d'avoir évidemment une échappée matinale, mais très vite on va prendre la chasse en main, je pense, du côté des équipes à Pessines et peut-être pourquoi pas Groupama, parce que Romain est un des grands favoris de cette étape. Un final en circuit sur le Tour de France, ça arrive rarement. Avec un circuit aussi difficile, ça peut être un beau spectacle. Et en tout cas, cette montée de Montjuïc, on l'a vu aujourd'hui, va faire des difficultés, va créer des écarts et va mettre certains garçons en difficulté.
Est-ce qu'avant, le vent peut être aussi important? Parce qu'on sent ici, en haut de Montjuïc, ça souffle. On va être en bord de mer quand même une partie de la journée.
Oui, alors je ne pense pas qu'il y aura des risques de bordure. C'est là où tu vas en venir sur la première partie. Par contre, on regardera bien la direction du vent dans la montée de Montjuïc, justement sur ce circuit. Parce que s'il y a vent défavorable, par exemple, ça change complètement la physionomie. Vent de dos, c'est beaucoup plus difficile. Donc, ça favorise les pure punchers ou les grimpeurs. Vent de face, bah, faut bien choisir son effort. Jérôme l'a dit, c'est l'autre versant, mais la montée deux fois plus longue, hein. C'est 1,6 km demain. Donc s'il y a vent défavorable, faudra pas déclencher trop tôt, parce que là, dans l'aspiration, par contre, on peut vite se faire déborder. On verra, on analysera vraiment le vent demain et on...
S'il est dans la même direction avec la même force qu'aujourd'hui, c'est vent de face,
vent de face
en partant.
Ça, c'est sûr.
Ensuite, quand on bascule le deuxième catégorie, on est par ici plutôt à l'abri, dans la forêt, derrière Barcelone. Et puis ensuite, sur le circuit final, on va avoir une partie vent dans le nez et le sprint final se fera vent dans le nez. Donc, avantage... plutôt Matthews Van Der Poel plutôt qu'un puncher Pogacar.
Ouais, ou Tadej Pogacar. Hein. Tadej Pogacar, ouais, aujourd'hui, il est un peu vexé d'avoir oui. perdu. Il attaque à la deuxième montée de Montjuïc. Et voilà, et ça fout le bazar. Hein.
On ne peut pas imaginer avec un parcours comme ça demain, Richard, qu'ils vont rester tranquilles. Ce n'est pas possible. Il va forcément y avoir du mouvement avec même les favoris.
Oui, oui, il va y avoir un règlement de compte entre favoris. Si on arrive okay, pour la victoire d'étape, je pense que Pogacar, aïe. Je le vois fort demain et je le vois remettre une petite claque à Vingegaard, lui dire attends, tu m'as mis quelques secondes, mais c'est moi le boss. Et demain, ça va être une belle arrivée. Hein, une belle arrivée. C'est clair que Romain Grégoire a une belle chance, mais... de se taper un Pogacar au sommet, là, ça serait magnifique. Mais il est dans une grande forme et on verra. Mais en tout cas, il y a match demain. Il y a une belle arrivée. Ça va être un beau spectacle.
Mais tu ne crois pas du tout à la théorie de l'échappée qui irait au bout?
Alors oui, non. On est, tout le monde est frais. Les favoris sont là. Ça va être difficile. On va quand même garder le noyau. Je vois plus une échappée à partir de lundi, mardi. Oui, là ça va partir en fleuve et le maillot jaune va partir.
Allez, tu as quelques secondes pour réfléchir. Comme ça, je vais interroger les autres camarades de l'équipe autour de la table. Un nom, un favori pour demain. Jérôme Coppel.
Aujourd'hui, j'ai dit Kevin Vauclin, je vais porter la poisse, donc je ne vais pas dire celui que je veux. Je vais dire Tadej Pogacar.
Jérôme Pinot,
tu veux bah, qui je dis tu pas sinon c'est
moi je vais prendre référence au dernier duel qui a eu lieu sur les routes du Tour de France à Boulogne durant à peu près le même genre de pente au sprint l'année dernière et c'est Mathieu Van Der Poel qui avait battu Tadej Pogacar et je pense qu'il va récidiver demain.
Les copains là.
Oui, vas-y, Richard.
Vas-y, Richard.
Non, mais bon, les meilleurs sont donnés, donc qu'est-ce qu'on fait?
Ah, mais t'as le droit de reprendre le même. On n'est pas dans les paris RMC. Là.
D'accord.
Non, là, c'est vraiment.
On sent le mec qui veut rien lâcher quand même.
C'est un gagnant.
Richard Cœur de Lyon, il a.
Tadej Pogacar pour moi. Pogacar de moi.
Non, là, je veux l'avis des experts. Là, vous avez le droit de donner.
C'est sûr que Tadej Pogacar. Sera le mec à surveiller dans ce...
Mais est-ce qu'il aura envie de bouger après? Ça, c'est aussi une autre
non,
question.
Il aura... Moi, je pense qu'il ne bougera pas avant le sprint final, mais dans un sprint...
Ouais, dans les 800 derniers mètres de la dernière
comme
montée...
Celle-là, il va pas être loin. Et l'année dernière, il a été battu dans le même genre d'arrivée par Mathieu Van Der Poel. C'est pour ça que je dis Mathieu Van Der Poel.
On a eu la vie d'experts.
C'est plus dur. Hein. Ouais. Je pense que l'arrivée de demain, l'arrivée de Montjuïc, c'est une bonne patate. Hein. Et j'ai peur que Mathieu soit là, mais il est un peu
juste,
plus massif.
Ça dépend quand
il est trop massif. Il est trop massif et c'est une bonne patate. Hein, et ça dure un peu. Hein, donc, je ne sais pas. Mais bon, on verra. En tout cas, il y aura un match.
Il est moins massif que lors des classiques. Hein. Il est émacié, il est affûté. Je l'ai rarement vu aussi affûté, hein, Mathieu Van Der Poel. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas le même gabarit que Poggi.
Oui, c'est ça. On aimerait bien que tu t'affûtes aussi entre les classiques et le tour, mais ce n'est pas le cas. Hein.
Alors justement, on finit avec toi, Christophe, pour ton
pronostic.
L'année
dernière, il avait 15 kilos de plus et on l'entendait moins. Là,
ça veut dire qu'il en reste encore 5.
Oui, il en reste encore 5. Je pense qu'il y en aura 10 à la fin du tour.
On a fait un mois de juin avec 40 degrés. Ils ont tous fondu, les coureurs. Donc c'est plus facile.
Écoute, moi, la raison me dit Pogacar et le cœur me dit Grégoire. Mais bon, si Poggi met en route, si Romain n'a pas quelques secondes d'avance au pied de la dernière bosse, ce sera quand même compliqué de rivaliser avec Poggi. Donc je dis Pogacar.
Eh bien, on a hâte d'y être déjà. Merci à tous les quatre d'avoir été en notre compagnie. Merci à nos reporters, évidemment, de nous avoir accompagnés et de nous avoir donné toutes les infos. Vous retrouverez l'After Tour chaque jour sur la chaîne du podcast du peloton RMC pour débriefer chaque étape. Et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux. Évidemment, on vous montrera les coulisses et on vous présentera chaque étape. Merci aussi à Roxane, à la production, et puis à Rémi qui était derrière les manettes pendant toute la journée.
RMC, l'After Tour.